Radio. Cube Radio.
En direct à LCN.
Vincent, bon début de journée.
Salut Jean-François.
Alors, les parents ont de quoi être inquiets. C'est compliqué depuis quelques semaines dans les CPE. Il y a toujours des grèves qui arrivent d'un jour à l'autre. Là, il y a 4 journées de grève cette semaine, dépendant des syndicats. Et là, on parle de grève générale illimitée, là.
Ouais, les syndicats qui se sont donné un outil assez puissant dans cette négociation-là avec le gouvernement. On attend de voir aujourd'hui le vote là, pour la CSN, qui est comme la 3e centrale syndicale, qui représente énormément d'éducatrices aussi et de personnel de CPE. Donc, on va voir aujourd'hui si eux aussi se donnent un mandat aussi clair qu'on l'a vu hier avec la CSQ. Là. Et ça va leur donner un outil dans cette négociation-là qui semble un peu bloqué, hein, parce que le gouvernement l'a dit, l'a répété, on veut augmenter de façon substantielle les salaires des éducateurs et éducatrices. Ceci dit, pour le reste, pour le personnel de soutien, par exemple dans les cuisines, personnel d'entretien, on ne peut pas offrir une augmentation comme les syndicats le demandent. Les syndicats ne demandent pas exactement la même augmentation que pour les éducatrices, mais en demandent une quand même beaucoup plus importante que pour les autres ailleurs dans la fonction publique. Puis c'est ça que le gouvernement a dit. Il y a une question d'équité là-dedans aussi. Je peux pas payer un cuisinier dans un CPE beaucoup plus qu'un cuisinier, par exemple, dans un hôpital. Et ça, c'est l'un des problèmes. Ceci dit, avec le vote qui a été fait et ce mandat de grève générale illimité, on envoie quand même le message au gouvernement qu'on est prêt et que les éducatrices sont solidaires et que les éducatrices ne sont pas prêtes à dire « Nous, oui, d'accord, l'augmentation. Les autres, tant pis. On est en bloc. On travaille en bloc. » Et donc, ce rapport de force-là, il est quand même encore important. Dans le milieu de tout ça, il y a les parents qui, en ce moment, vont se dire « Qu'est-ce que je vais faire? » Là, pour le moment, on dit la grève générale illimitée, elle n'est pas enclenchée. On n'a pas de date pour le début de cette grève-là. On espère, des deux côtés, quand même en arriver à une entente, même si on sent le dialogue de source opérer.
Alors, je dirais, Philippe Vincent, ça va, comme on dit, ça passe ou ça casse rapidement. Ils veulent régler avant Noël.
Ben,
alors,
c'est ça.
Si ça avance pas dans les prochains jours, ils vont mettre leur menace à exécution.
Ben, exact. Là, je regarde Noël, c'est dans un mois exactement. Alors, il reste plus beaucoup de temps pour négocier. Si vous êtes un parent, 2 choses possibles. Parlez à vos éducateurs, vos éducatrices, au personnel des garderies. Essayez de comprendre. Essayez de discuter avec eux. Mais vous avez aussi le pouvoir d'appeler un député. Vous avez un député. Si c'est un député de la CAQ, encore plus. Il y a rien qui énerve plus un député et qui énerve encore plus un ministre d'avoir un député qui vient caucus après caucus pour dire là, le téléphone n'arrête pas de sonner. Là, les parents sont inquiets. Pouvez-vous, s'il vous plaît, régler cet enjeu-là? Vous avez un pouvoir comme parent, prenez-le. Votre député, c'est une belle porte d'entrée à l'Assemblée nationale.
C'est un bon levier, effectivement, pour faire pression sur le gouvernement. Par ailleurs, c'est jour de mini-budget, comme on pourrait dire, mise à jour économique. On va savoir comment on s'en sort de cette pandémie financièrement et aussi qu'est-ce qu'on va mettre en branle pour aider l'économie et régler ce problème généralisé de pénurie de main-d'œuvre.
Ouais, espérons qu'on va commencer à avoir le début d'un vrai plan concret plus général que simplement des petits pansements ici et là pour régler ce problème-là de la pénurie de main-d'œuvre. On va regarder aujourd'hui l'état des finances publiques. Ça a l'air que ça va beaucoup mieux au Québec que ce qu'on croyait et que le gouvernement va quand même garder son objectif qu'il avait d'équilibrer le budget dans quelques années. Donc, on ne rapproche pas cette date-là pour équilibrer le budget, ce qui donne un peu plus de marge de manœuvre. Donc, un peu plus de dépenses pour le gouvernement. Espérons que cet argent-là va aller, oui, pour la pénurie de main-d'œuvre, la formation, la rétention du personnel. Mais il y a quand même d'autres gros dossiers, là. On avait promis des crédits d'impôt pour les parents qui ont des enfants dans des garderies privées non subventionnées. À quelle hauteur seront ces crédits d'impôt-là pour que quelqu'un qui paye 50 $ par jour, en bout de ligne, soit autour de 10 $ comme un parent dans un CPE? Ça, c'est un gros morceau auquel on s'attend. On s'attend aussi à de l'argent pour la prévention, notamment avec la violence avec les armes à feu à Montréal. La ministre responsable de la métropole m'avait dit ici en entrevue qu'il y aurait de l'argent pour la prévention, pour les groupes communautaires. À quelle hauteur? Est-ce que ça va être suffisant pour commencer à penser qu'on est capable de régler ce dossier-là aussi? Pour le logement, c'est une des grandes préoccupations, l'un des grands des petits drapeaux rouges aussi qu'on a levé du côté de la Banque du Canada. Les logements coûtent de plus en plus cher. L'endettement, il est très élevé avec les taux d'intérêt qui vont augmenter. Il y a un problème, puis ça s'ajoute à l'inflation. Comment on va réussir à aider ceux et celles qui ont des revenus fixes? On l'a vu avec cette dame à Sherbrooke, cette dame âgée. ses revenus augmentent pas, mais ses dépenses augmentent en flèche. Comment on va aider ces gens-là qui sont plus pauvres, qui ont plus de la difficulté à joindre les deux bouts? C'est une grande question. Bien, espérons que le gouvernement arrive encore une fois avec des solutions, là.
Ouais. Et un petit mot sur la vérificatrice générale qui, encore une fois, j'allais dire pour M. Fitzgibbon, se fait écorcher encore une fois, cette fois par la vérificatrice générale. On parle de prêts discrétionnaires, disons, de 68 millions de dollars.
Oui, une dizaine d'entreprises. Au fond, la vérificatrice générale a choisi une vingtaine d'entreprises là, qui ont reçu de l'aide du gouvernement pendant la pandémie. Puis elle a décidé d'analyser pour voir si tout avait été fait selon les règles de l'art. Et on a réalisé qu'il y en a 10 là-dedans pour qui ça n'avait pas été fait. Des 10 qui ne respectaient pas les critères d'admissibilité. Et ce qu'on comprend, c'est qu'il y avait un aspect discrétionnaire que le ministre, finalement, Pierre Fitzgibbon, a pu permettre à ces entreprises-là qui n'avaient pas nécessairement de bonne rentabilité avant la pandémie ou qui avaient des problèmes de rentabilité par la suite, où on se disait ça donne rien de donner de l'argent à des entreprises qui n'étaient pas rentables avant la pandémie. Elles n'ont pas un problème de rentabilité à cause de la pandémie. Elles avaient un plus grand problème avant, mais M. Fitzgibbon a décidé qu'il valait mieux donner de l'argent à ces entreprises-là. Il dit il n'y a pas de conflit d'intérêts ici. Ceci dit, le gros problème, c'est vous faites un programme, vous donnez des règles publiques à tout le monde, et là, en coulisses, on apprend que pour certaines, on est capable d'avoir ici un peu de flexibilité, mais on le disait pas. À un moment donné, si on met des règles, si on met des programmes, il faut qu'ils soient pareils pour tout le monde. Et bon, c'est bien qu'on en parle aujourd'hui parce que disons que ce rapport-là de la vérificatrice générale est pas mal passé sous silence avec tout ce qui se passe à Québec, notamment dans les CHSLD. Le gouvernement Legault qui passe un mauvais quart d'heure.
Ouais, pas certain que c'est terminé ce mauvais quart d'heure concernant les CHSLD. Ça va se poursuivre. Philippe Vincent, passe une belle journée.
Salut, toi aussi, Jean-François.